Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à tous, en ce beau mois de juin qui nous réchauffe bien le cœur et le corps, j'accueille avec grand plaisir Nicolas Delarquet, que je salue tout de suite. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Nicolas, nous le connaissons depuis janvier 2022, où il a pris les clés du Musée de la Romanité, dont il est le conservateur en chef. Et nous l'avions reçu à plusieurs reprises. Et évoquer son parcours et notamment le fait qu'il était auparavant dans le fameux musée bleu, celui que j'aime à nommer ainsi, le musée départemental Arles Antiques. Donc, nous n'allons pas revenir sur votre parcours antérieur, mais nous intéresser à ce que vous faites dans ce musée de la Romanité, parce que depuis que vous êtes là, effectivement, beaucoup d'expositions clés en main, homemade, si je puis dire, ont été faites puisque vous avez eu à cœur de faire un travail du début à la fin pour présenter au Nîmois, mais pas qu'au Nîmois, bien entendu, à tous des œuvres majeures. Alors, dans les expos que vous avez créées avec votre équipe, bien évidemment, on peut citer quelles expositions ? La dernière, celle d'Achille, déjà.
Alors voilà, hein, c'était. On avait l'année précédente fait une exposition un petit peu particulière parce que c'était une exposition qui mêlait art contemporain et antiquité. C'était la première, on va dire, exposition estivale que l'on montait. Il y avait eu l'exposition Golvin un petit peu en amont. Et voilà, la première grande exposition annuelle qu'on ait fait, c'était l'exposition d'Achille, Achille et la guerre de Troie. Et donc là, depuis la fin du mois de mai, on est parti avec un autre projet qui s'appelle Gaulois mais Romains.
Alors je trouve que le titre tout simple, il est merveilleux, il sonne bien à l'oreille. Et qu'est-ce qu'il fait comme sens ? Parce qu'effectivement, on a tout un tas de clichés dans la tête à propos des Gaulois, mais vous allez bien sûr nous en parler dans un petit instant. Donc, des expositions clés en main, des créations ex nihilo, pas tout à fait, puisque les œuvres ne viennent pas de nulle part. Et la prochaine aussi, j'imagine, va être de cet acabit. Mais parlons déjà de celle qui s'est ouverte, qui est proposée jusqu'au mois de janvier, ce qui fait qu'on ne pourra pas la voir une fois, mais plusieurs fois. Jusqu'en janvier 2026, il y a le temps de faire le tour de cette exposition qui est riche hein, en objets et originale. Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous en a donné l'idée ?
Alors, ce qui nous en a donné l'idée, c'est déjà que beaucoup de visiteurs viennent au Musée de la Romanité et cherchent quelque chose, cherchent des informations sur ces fameux Gaulois. Malheureusement, les Gaulois, c'est difficile de parler d'eux parce qu'on connaît finalement peu de choses sur eux. On a beaucoup l'idée que nous ont transmis les Romains d'ailleurs d'un peuple uni et homogène, alors que en vrai, au sens historique du terme, les Gaulois n'existent pas. On pourrait
Exactement.
Simplement dire que les Gaulois sont les habitants de ce que Rome appelait la Gaule.
Mais quand même, César avait dit une tres partes dit oui ça.
Tout à fait. Mais pourtant, ce qui est assez c'est cette division là, c'est une division administrative qui est plutôt une division romaine. Alors qu'il faut imaginer plutôt chez les Gaulois une mosaïque de peuples, une soixantaine de peuples sur ce territoire-là, qui sont en fait des Celtes. Et chaque peuple, dans des petites sphères régionales, en fait, a ses spécificités. On peut parler quand même d'une ère culturelle quand même avec des éléments communs d'un peuple à l'autre, d'une unité territoriale à l'autre, mais pour autant pas une organisation politique homogène et cohérente.
C'est même ça qui va les perdre finalement.
Alors, c'est ça qui va
les
perdre.
Au dire de Jules César, en tout cas.
Oui, dans le sens où cette unité est tardive, finalement, ouais. En résistant à la conquête, et que même c'est finalement certains peuples gaulois qui appellent Rome à l'aide et qui fournissent un prétexte à Rome pour intervenir.
Et oui, donc ces Gaules, hein, puisqu'effectivement c'est une hérésie de dire la Gaule, il faut quand même tout de suite préciser que nous ici en Narbonnaise, ça fait fort longtemps que nous étions gallo-romains.
Voilà, c'est sûr que la conquête et la constitution même en province de cette partie de la Gaule méridionale est bien antérieure à la conquête de César. La conquête de César, c'est grosso modo 58-51 avant Jésus-Christ. Et en fait, dès la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, la Narbonnaise a déjà connu Rome bien, bien profondément.
Et puis, donc, c'était tissé des liens déjà commerciaux depuis fort longtemps entre ces Gaulois, parce qu'en fait, l'intérêt guide le monde. Hein. Et même si on est patriote et celte, on aime à commercer avec Rome.
Tout à fait. C'est sûr que Rome n'arrive pas. En fait, on a voulu aussi travailler ce cliché d'une Rome civilisatrice qui a été en plus accentuée à l'époque de Napoléon III, puis de la Troisième République, puisqu'on était dans un contexte colonial en France. Et nous, on a voulu combattre un petit peu ce cliché d'une Rome civilisatrice qui arrive dans un territoire qui était presque vierge, en fait. Et c'est souvent, dans les images d'Épinal, l'idée qu'on a de cette Gaule, un territoire vierge et non civilisé. Or, c'est tout le contraire. Rome arrive dans un territoire qui est déjà fortement anthropisé, qui est déjà organisé, et sur lequel elle vient, en fait, poser un certain nombre d'éléments, des institutions, un mode de vie, mais par-dessus un mode de vie qui existait déjà et qui constitue des bases quand même assez solides pour la Rome antique.
Et alors, ce qu'on peut souligner aussi, même si ce n'est pas du tout le but de votre exposition, c'est que Rome aura la sagesse de composer avec ce qui existe et de faire construire sur place, avec les matériaux sur place, avec les gens sur place. Parce que ça, c'est une composante de la réussite de ce fameux empire romain.
Les Romains sont très intelligents. Ils ont bien compris que, évidemment, la première phase de la conquête pouvait être une phase de conquête par la force. Il ne faut pas non plus être idéalisant de tout cela. Et on sait bien que Rome, une fois la conquête accomplie, laisse des forces militaires sur place, mais pas tant que ça, parce que Rome, César en particulier, part avec ses troupes pour s'occuper de la guerre civile avec Pompée. Donc il reste des contingents militaires, mais en fait, très intelligemment, à la fois sur les corps auxiliaires de l'armée qui vont être composés, beaucoup de Gaulois d'ailleurs, et également sur l'ancienne élite gauloise, Rome vient utiliser ces couches de la population pour faire passer son mode de vie et progressivement romaniser ces trois Gaules qui sont la Gaule Aquitaine, la Gaule Lyonnaise et la Gaule Belgique.
Donc oui, voilà une réussite qu'on leur envie, moi je dis, des métissages parfaitement, enfin peut-être pas parfaitement, mais pas mal réussi quand même. Donc vous aviez à cœur de montrer ça, parce que sur la Gaule, on a beaucoup de clichés, et effectivement l'exposition les relate ces clichés.
Voilà, il y a plusieurs clichés déjà. Celui, comme je vous le disais un petit peu en amont, d'une Gaule extrêmement forestière, couverte de forêts, de Gaulois.
Comata, Gallia
ouais,
Comata.
Tout à fait, Comata, la Gaule chevelue. Il avait été un temps question d'appeler cette exposition la Gaule chevelue, mais peut-être que ça parlait pas à tout le monde. Donc on est revenu sur un titre un petit peu plus clair.
Ah oui, je trouve que vous avez trouvé le titre parfait.
Difficile à trouver, à trouver. Et donc on imagine un petit peu ces Gaulois chevelus, hirsutes. On les imagine aussi avec notre vision
braillard, un peu
dans un cliché d'affrontement permanent, de société désorganisée. On n'en sait pas grand-chose, à part que tout ce qu'on en sait, finalement, nous a presque été transmis par les auteurs antiques.
Voilà, filtré par les
Romains, qui ont forcément une approche et un regard de vainqueur. Et eux, il faut qu'ils légitiment leur présence sur le territoire gaulois. Et donc, en fait, la vision qu'ils nous donnent des Gaulois, des Celtes de la Gaule, est très biaisée. En réalité.
Alors si on ajoute à cela Astérix, que j'adore, et là on retombe en plein dans le cliché à nouveau.
Alors c'était très intéressant parce que vous verrez, si les auditeurs vont voir l'exposition, on commence par une petite section sur le sanglier.
Oui.
Parce que le sanglier, en plus de la Gaule forestière, c'est vraiment le cliché qui est passé à la fois par l'enseignement Napoléon III, Seconde République, à travers même les livres scolaires dont ont hérité Goscinny et Uderzo. On imagine les Gaulois qui passent leur temps à aller chasser le sanglier dans la forêt. Il faut imaginer plutôt un peuple qui certes avait une élite d'organisation générale, mais qui était un peuple de paysans en fait. La Gaule avait été déforestée, la Gaule avait des champs, voilà, on était dans un peuple de la ferme. En
tout fait, comme les Romains d'ailleurs.
Comme les Romains, tout à fait, c'est pour ça que les Romains n'ont pas du tout eu de mal à implanter également tout un réseau de villas, de fermes, sur un réseau qui préexistait en définitive. Et donc voilà, il faut imaginer que cette chasse aux sangliers, c'est plutôt une prérogative de l'élite, c'est plutôt une prérogative de la noblesse,
de
l'aristocratie.
Et puis c'est plutôt le cochon que mangent les Gaulois,
oui,
et
voilà,
les Romains d'ailleurs.
Parce que élevage,
oui.
Voilà. Mais tout ce qui est gibier, voilà, c'est une chasse parce que l'animal sanglier est un animal symbolique, un animal de puissance, de force, donc dont la chasse est un petit peu réservée comme un exercice par excellence de la noblesse.
Oui, puis en même temps, il va incarner aux yeux des gens qui ne demandent qu'à croire aux clichés le côté sauvage.
Tout à fait. Mais on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir encore des clichés implantés en eux, parce que c'est quand même le système scolaire qui en a parlé. Et moi, je me souviens même, dans les tout débuts des premiers cours d'histoire que moi, j'avais dans les années 90 au primaire, je me rappelle que quand on a parlé des Gaulois, l'image qui était illustrée dans le petit livre qu'on avait, c'était Astérix et Obélix.
Et alors, si on regarde du côté des chansons, parce que quand on cherche à illustrer une émission par de la musique et des chansons, ben on va tomber sur à nouveau des chansons clichés, rigolotes, mais clichés, quoi. Les Gaulois sont dans la plaine, voilà, et on les présente exactement comme vous venez de le faire. Donc, cette exposition, vous aviez à cœur d'utiliser l'archéologie, puisque les textes ne nous parlent pas, en fait, et les textes gaulois eux-mêmes non plus, puisque pour accéder à l'écrit gaulois, il faut se lever de bonne heure.
Ils sont très rares, très très rares, la plupart du temps écrits dans une forme de grec, déjà, et puis de toute façon très rares et pas
tradition
suffisamment...
Tradition orale, oui.
La tradition était une tradition orale chez les Celtes, et tout ce qui est écrit est trop parcellaire pour en tirer une grande synthèse générale sur leur culture et leur manière de... Donc sans l'archéologie, en fait, on ne peut pas dire grand-chose des Gaulois.
Alors, avant qu'on ne parle de l'archéologie, vous avez cité Napoléon III qui a une importance dans cette exposition, à la fin de l'exposition. Et justement, lui aussi, il a eu l'intelligence de se servir du mythe gaulois pour... Alors d'abord, il était féru d'archéologie et d'histoire, hein, ça on ne va pas lui enlever, vous en parlerez mieux que moi. Et puis, il s'en est servi.
Ce qu'on n'a pas dit, déjà, c'est que l'intégralité des œuvres de cette exposition sont prêtées par le Musée d'archéologie nationale. Ce Musée d'archéologie nationale, c'est le grand musée d'archéologie en France, le premier.
Pour ne pas dire en Europe.
En Europe, oui. C'est une des plus grandes collections d'Europe, ça c'est sûr. Donc, il ne parle pas aujourd'hui que de l'archéologie gauloise, mais quand il a été fondé, c'était un musée gallo-romain. Et c'est Napoléon III qui le fonde. Donc, Napoléon III, il avait... comme vous dites, un intérêt pour l'histoire. Mais il avait un peu une petite arrière-pensée politique quand même, puisqu'il développe un concept de pouvoir qui s'appelle le césarisme. Donc vous voyez déjà que dans césarisme, oui. César est quand même pas loin, qui consiste finalement entre la rencontre d'un homme fort et d'un peuple. C'est un petit peu synthétisé à grands traits, mais c'est un petit peu ça l'idée force. Et donc, en fait, il va s'intéresser beaucoup à César. Et pour comprendre César, au-delà juste de la guerre des Gaules, qui est le livre laissé par César, il va essayer, avec son administration, de retrouver les grands sites de bataille de la conquête de la Gaule par César. Et sur ces grands sites, il va lancer des fouilles, notamment à Alésia.
Toutes les polémiques qu'on connaît, oui.
Oui, Alésia. Bon, maintenant, il n'y a plus trop de polémiques, mais pendant longtemps, on s'est interrogé sur l'endroit, sur le véritable site d'Alésia. À peu près, aujourd'hui, on est à peu près d'accord là-dessus.
Gergovie.
Gergovie, toutes les grandes batailles de César, même s'il y en a certaines qui ne sont pas localisées, quand même. Et donc, il lance des fouilles dessus il va se servir un petit peu aussi de cette archéologie pour développer un mythe de la France gallo-romaine. Et ça, c'est une des particularités. On voulait insister vraiment sur cette notion de gallo-romanité parce que c'est un peu un isola, une exception en Europe. Quand vous allez en Espagne, enfin dans la péninsule ibérique, on ne parle pas d'une ibéro-romanité ou plus au nord d'une germano-romanité. Ça n'existe pas.
Oui,
donc c'est
vrai.
Un concept très français. C'est un concept très français parce qu'en fait, on essaie à ce moment où on constitue l'esprit de nation de résoudre un peu le paradoxe entre l'élite et le peuple. Une élite qu'on voit plutôt justement d'extraction gauloise et un peuple plutôt d'extraction gauloise et une élite qui serait l'héritière de la romanité. Et en fait, pour allier un petit peu ces deux principes, on va créer un peuple gallo-romain avec, on va dire, des institutions héritées de la Rome antique et même des esprits, une culture, etc. et un fond de gaullitude, si vous me permettez le néologisme.
Oui, et d'ailleurs, je pense malgré moi à Astérix et effectivement à ce chef gallo-romain qui est présenté et qui offre une caricature parfaite dans la construction de son village pour à tout prix faire à moitié gaulois et à moitié romain. C'était beaucoup plus subtil que ça en réalité.
C'était très marrant de voir, parce que vous faites référence à la série de Chabat qui est diffusée en ce moment.
Oui.
Et nous, on n'avait pas prévu du tout, on ne savait pas du tout que cette série était en création. Et c'est très drôle de voir ce chef qui se définit comme un gallo-romain, qui est un concept qui ne peut pas exister à l'Antiquité du tout. Il devrait, lui, plutôt se définir comme un Romain et plus comme un Gaulois. Et c'est marrant qu'il essaie de faire cette synthèse-là parce que c'est la vision.
Mais il s'inspire du combat des chefs d'Astérix, chose déjà.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Très bien, donc cette exposition, on en voit effectivement toutes les raisons et toutes les illustrations. Et nous allons marquer une petite pause après cette pause musicale. On rentrera, non pas dans le détail, mais on expliquera comment circuler dans l'exposition à nos auditeurs. À tout de suite, Nicolas.
Merci.
Alors, c'est la deuxième partie de notre exposition consacrée aux Gaulois qui sont dans la pleine lumière avec Nicolas Delarquier au Musée de la Romanité. Et nous tentons d'explorer, mais c'est tellement riche le sujet que le temps passe trop vite, nous tentons d'explorer toutes les raisons qui feraient qu'on s'approche de ces Gallo-Romains dans cette belle exposition, donc nourrie des œuvres prêtées généreusement par le Musée de Saint-Germain-en-Laye. Il y a des œuvres un petit peu de toutes les Gaules qu'on voit ici. Et c'est justement, je trouve, assez passionnant hein, parce qu'on voit des œuvres de Bourges, enfin de tous les coins de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Alors, comment est-elle conçue, cette exposition? Et de peur d'oublier, parce que le temps passe très vite, je l'ai dit, il faudra se souvenir que ce partenariat que vous avez développé avec ce musée, ainsi que le partenariat avec le musée du Louvre précédemment, va engendrer ensuite d'autres projet.
Oui, alors premier projet avec le Louvre en 2021, où le Louvre était prêteur principal, on va dire. Et là, le futur projet hein, d'une exposition avec le Louvre, c'est pour 2026. Et là, on aura le nom de code, c'est un peu sans chef-d'œuvre, puisque le département des antiquités romaines du Louvre nous concède un prêt absolument extraordinaire avec toutes les œuvres principales du département. Donc pour les gens qui ont envie de voir le grand art romain, ce sera véritablement l'occasion de venir l'année prochaine.
Alors, qu'on se le dise, au Louvre, il n'y aura plus rien. C'est ici qu'il faudra venir.
Au Louvre, il n'y aura plus rien puisqu'on profite en fait du déménagement, enfin du réaménagement du parcours romain du Louvre. Donc en effet, il sera fermé. Donc si vous voulez voir les œuvres du Louvre, il faudra aller voir chez nous.
Voilà, tout simplement. Alors cette exposition, comment est-elle organisée? Je répète qu'elle est très très riche. Hein. Il y a beaucoup à voir. À mon avis, une fois ne suffit pas. Mais enfin, il faut procéder par petits bouts.
Première chose, c'est une exposition qui parle en effet des trois Gaule. C'est important parce qu'il ne faudrait pas que les visiteurs viennent et nous disent « Mais où est la Gaule narbonnaise ?» La Gaule narbonnaise, elle est dans le parcours permanent. Donc l'idée, c'était de faire dialoguer justement cette Gaule que les Nîmois et les méridionaux connaissent bien, la Gaule narbonnaise, qui est présentée dans nos collections permanentes, avec une Gaule qui s'est romanisée plus tardivement, la Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la Gaule belge. On est parti du cliché du sanglier. Ensuite, deuxième partie de l'exposition, on essaie de faire le portrait, un peu synthétique évidemment, de toutes les couches sociales de la population, l'armée, l'élite, qui sont les deux vecteurs de romanisation principaux, mais également le reste de la société, les artisans, beaucoup, puisque c'est un peuple de métier, et une catégorie sur laquelle on ne sait pas beaucoup de choses toujours, mais ce sont les esclaves et les affranchis. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a une...
Alors, j'ai bien aimé, vous avez employé l'expression « les Gaulois sortent de la forêt ».
Oui, c'est voilà, ça. Ils sortent de la forêt, justement, pour sortir des clichés. Ensuite, on a une très, très belle section autour de la présentation de la voûte d'arête d'une villa romaine, une villa des Yvelines, donc on est en Gaule lyonnaise, qui a été fouillée dans les années 60 et jusqu'au début du 21e siècle, réétudiée, en tout cas, au début du 21e siècle, où on a retrouvé énormément de fragments de peinture qui ont été reconstitués et on a un très rare plafond en voûte qui est reconstitué. Donc vous pouvez passer sous la voûte. C'est un très très beau travail de restauration qui est présenté pour la première fois depuis toujours au Musée de la Romanité.
Ainsi qu'une animation.
Ce qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, on ne pouvait pas restituer l'intégralité de la villa qui fait 400 mètres carrés. Mais par contre, on l'a restituée numériquement aussi. Donc, vous avez une partie restituée en physique et une partie restituée en numérique pour que le visiteur puisse parcourir les différentes salles et les différents décors de la villa. La deuxième section, deux ou troisième section autour de la religion et des pratiques religieuses, donc très importante pour voir la fusion de la culture gauloise et romaine. Et une dernière partie plutôt sur la question Napoléon III et la gallo-romanité.
Et la naissance de l'archéologie.
Et la naissance de l'archéologie,
c'est ça. Oui, parce que ça, c'est vraiment un point important. Donc, vous voyez, c'est très, très riche. Et vous diriez, vous les connaissiez, toutes ces œuvres que vous avez...
Pas toutes.
Non. Alors, lesquelles ne connaissiez-vous pas?
Par exemple, je ne connaissais pas la visière dite de Monterland, qui est une très belle visière de cavalier, donc une visière de casque, qui a été acquise assez récemment par le Musée d'archéologie nationale. Donc, je ne la connaissais pas, elle était restée en main privée pendant très très longtemps. Et puis d'autres œuvres, de la petite statuaire, ce genre de choses-là qui sont souvent dans les réserves.
Oui, d'ailleurs, il y a toute la panoplie des soldats avec leurs chaussures aussi.
Oui. Hein.
Et je ne doute pas, parce que je sais que M. Yann Le Bouec va bientôt être dans nos murs et il va se précipiter pour voir l'exposition. Ça, je le sais déjà. Donc, ça, c'est des objets que vous ne connaissiez pas. Et l'objet qui vous a le plus ému dans, dans ces retrouvailles avec les Gaulois mais romains?
C'est dur, mais il y a deux œuvres. Il y a ce qu'on appelle le dieu de Bourret, qui est une peut-être probable représentation de divinité gauloise, mais déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, donc post-conquête, mais qui est une œuvre très emblématique en métallurgie, très particulière, avec des yeux incrustés. Donc c'est une œuvre assez marquante du parcours gallo-romain du Musée d'archéologie nationale. Et le pilier du pont au change, qui est une œuvre qui a été trouvée à la fin du 18e siècle, derrière la Sainte-Chapelle à Paris. Donc déjà, le lieu est prestigieux, oui, en lui-même. Une des premières découvertes aussi de l'archéologie gallo-romaine. Et qui montre sur quatre faces des représentations de divinités qui sont, on va dire, des réinterprétations gauloises des divinités romaines, donc qui montrent très bien cette fusion des deux cultures.
Et rien que ce moment-là, cet endroit-là, pardon, il faut passer beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir.
Oui, il y a beaucoup de choses. Vous avez le trésor de Champoulet également, avec le très beau Mercure et sa parèdre Rosmerta. Voilà, il n'y a que des chefs-d'œuvre, hein, en vrai. Donc,
Eh bien, il nous reste à vous remercier, Nicolas, pour cette présentation très, très vivante et très variée de cette exposition. Et à vous remercier, parce que franchement, c'est une réussite.
Je vous remercie.
À bientôt.
À bientôt.